Une cérémonie pour rendre hommage aux gendarmes morts pour la France. C'était ce matin à la caserne Meunier de Nouméa, en présence des autorités civiles et militaires. La clinique Coindomania contrainte de reporter ses interventions en bloc opératoire en raison du manque d'infirmiers. Plusieurs retards sont à prévoir, indique l'établissement hospitalier. Cette affaire sera jugée lors de la première session d'assises de l'année. Elle se tiendra du 3 au 21 mars. Les jurés se pencheront sur 4 meurtres et 3 affaires de viol. La rentrée scolaire 2025 se poursuit. Tous les élèves ont désormais fait leur retour en classe. L'occasion pour les responsables institutionnels de visiter des établissements scolaires et souhaiter une bonne rentrée aux 62 660 élèves du territoire. Au lycée d'Ocamo, 46 élèves ont fait leur rentrée au Pôle Excellence, un programme sportif créé en 2022 qui associe cours magistraux et football. Bonsoir à tous, bienvenue dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Ouvrons ce journal avec cette cérémonie très émouvante ce matin dans la cour d'honneur de la caserne Meunier. Une cérémonie pour rendre hommage aux gendarmes morts pour la France, Lionel Sabot.
Chaque année, au mois de février, dans toutes les gendarmeries de France, on rend hommage aux gendarmes qui ont donné leur vie pour protéger et assurer la sécurité de tous. Ce matin et après la crise insurrectionnelle qui a touché la Nouvelle-Calédonie, l'émotion était presque palpable lorsque le haut-commissaire Louis Lefranc, en égrenant les noms des 12 gendarmes morts pour la France en 2024, a prononcé les noms du gendarme Nicolas Molinari et celui de l'adjudant-chef Xavier Saliou, mort en mission en Nouvelle-Calédonie au premier jour des émeutes qui ont fait plonger la Calédonie dans le chaos. Deux noms gravés à jamais sur la stèle située dans la cour d'honneur de la caserne Meunier. Écoutez le haut-commissaire Louis Lefranc, visiblement ému à l'issue de cette cérémonie.
C'est un hommage oui, tout à fait particulier. C'est la première fois, pour ce qui me concerne, je me trouve en situation où un hommage concerne deux gendarmes du territoire où je suis en responsabilité. C'est un moment qui a été très difficile pour tout le monde. Toute la population calédonienne a souffert de ce qui s'est passé. Et les gendarmes, on leur doit beaucoup. Il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. Oui, c'était un moment particulier. Moi, je pensais à tout cela en ce moment. Et j'espère vraiment pour les Calédoniens qu'ils n'aient plus à le revivre. Donc il faut que toutes celles et ceux qui ont un bout de responsabilité pour éviter que ça se reproduise, eh bien s'y donnent avec toute leur énergie.
Lors de la cérémonie de ce matin, le haut-commissaire a décoré de la médaille d'or pour acte de courage et de dévouement les drapeaux de deux unités de la gendarmerie présentes en Calédonie pendant la crise insurrectionnelle, un escadron de gendarmerie mobile et un escadron blindé. Le général de division Nicolas Mathéos est le commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie.
Ce drapeau revêt aujourd'hui dans chacune de nos unités le caractère sacré. Il symbolise l'autorité, il symbolise aussi la mission, il symbolise les valeurs qui sont inscrites sur nos drapeaux. Et donc, quand monsieur le haut-commissaire décore un drapeau, ça a pour nous un sens très particulier. Nous sommes conscients du grand honneur qui nous est fait. C'est une récompense, certes, mais c'est aussi un rappel à notre devoir dans nos missions quotidiennes chaque jour.
Avec deux unités qui se sont particulièrement, j'allais dire, illustrées pendant la crise insurrectionnelle.
Oui, alors le groupement de Metz était présent avant le 13 mai, a connu les prémices de la crise, a connu la crise dans ce qu'elle avait de plus dur au début du mois de mai. Et puis le groupement blindé de Satori est engagé régulièrement, est cantonné à Tontouta et a été engagé en particulier à Saint-Louis. Donc monsieur le commissaire a voulu vraiment marquer en décorant ces deux drapeaux les valeurs profondes de ces deux unités, de leur chef, mais aussi de tous les gendarmes qui y servent, parce que tous sont venus ici servir sur le territoire dans les conditions extrêmement difficiles que vous connaissez.
Et pour cette cérémonie en hommage aux gendarmes morts pour la France, étaient présentes les autorités civiles et militaires, le général de division Yann Latil, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, la directrice territoriale de la police nationale, Marjorie Ghisoli, le député Nicolas Metzdorf, le sénateur Georges Naturel, Alcide Ponga, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Virginie Rufnak, première vice-présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, était également présent le procureur de la République, Yves Dupas, et les représentants des associations d'anciens combattants.
Du côté de la situation sanitaire sur le territoire, la clinique Coindomania annonce de possibles retards et reports de certaines interventions programmées, Jean-François Baudin.
Comme tous les établissements de soins du territoire, elle fait face en effet à une pénurie de personnel soignant et cette situation l'oblige à revoir régulièrement le planning des opérations. Parfois, certaines interventions chirurgicales peuvent être remises en cause le jour même. Les explications de Céline Monnier, elle est la directrice des soins à la clinique Coindomania.
On a souhaité alerter la population de possibles reports d'intervention liés en fait à un manque de personnel paramédicaux. Donc on a bien l'ensemble de nos chirurgiens, nos anesthésistes, mais dans un bloc opératoire, il y a la nécessité d'avoir un certain nombre de personnels formés, donc des infirmiers de bloc opératoire. Et aujourd'hui, on a de gros soucis de recrutement sur ce type de personnel. Il nous en manque globalement 7. Donc on devrait avoir à peu près 32 IBO au sein du bloc opératoire pour fonctionner normalement en 8 salles. Et aujourd'hui, on n'en a que 25. Dès le mois de juin, on avait essayé de lancer des recrutements, y compris avec la métropole. On a effectivement quelques arrivées prévues en mars et en avril, mais en fait, ces arrivées vont tout juste équilibrer les nouveaux départs qui sont programmés.
Le planning des opérations se fait bien sûr en fonction de l'urgence des interventions, mais aussi de la présence des personnels. La reprogrammation est aléatoire parce qu'elle dépend du planning opératoire des chirurgiens, mais la sécurité et la qualité des soins demeurent la priorité absolue, assure la clinique.
On a justement fermé des salles de bloc pour ne pas faire l'économie sur la qualité et surtout sur la sécurité des soins. C'est vraiment une question de sécurité de soins là qui est aujourd'hui notre priorité parce qu'on ouvre des salles que si on a le personnel suffisant. On préfère fermer une salle si en effet l'effectif n'est pas en nombre. C'est vraiment pour privilégier justement cette sécurité des soins.
La pénurie de personnel concerne dans ce cas précis les infirmiers pour bloc opératoire qui ont des compétences spécifiques. Une profession qui était déjà en tension, mais la situation s'est aggravée avec les émeutes de mai.
RRB 17h52.
En bref, un militaire grièvement blessé hier alors qu'il portait assistance à une baigneuse. Il était en randonnée avec des collègues au niveau des marmites de Dumbéa et il a plongé dans la rivière pour venir au secours d'une femme qui était en difficulté. Lors de ce plongeon, le militaire a été grièvement blessé à la colonne vertébrale et les pompiers de Dumbéa sont intervenus pour le prendre en charge. En raison de la gravité de ses blessures et de l'éloignement du site, les secours ont fait intervenir un hélicoptère de la gendarmerie qui a élitreillé le blessé et l'a ensuite transféré au Medipol. Justice, la première session d'assises de l'année se tiendra du 3 au 21 mars. 7 affaires y seront jugées. Il s'agit de 4 meurtres et de 3 affaires de viol. Une session présentée ce matin par l'avocat général Philippe Faisandier. On sait que le fonctionnement de la cour d'assises a été fortement impacté par les violences insurrectionnelles puisque la deuxième session de 2024 devait s'ouvrir le 13 mai. 3 sessions devraient avoir lieu cette année pour évacuer le stock d'affaires à juger. Écoutez l'avocat général Philippe Faisandier.
Nous avons 7 affaires qui viennent à la cour d'assises, 4 affaires d'homicide et puis 3 affaires de viol. Parmi ces 7 affaires, une affaire vient en appel et une autre affaire, ce sera la première qui va ouvrir la session, qui est appelée devant la cour d'assises des mineurs. Il y a 8 accusés en tout, 5 d'entre eux vont comparaître détenus et 3 vont comparaître étant sous contrôle judiciaire. Les affaires de meurtre ont toutes eu lieu en 2022. Donc ce sont des affaires qui n'ont pas tout à fait 3 ans aujourd'hui. Des délais qui s'allongent légèrement, mais qui restent quand même tout à fait acceptables au regard des délais que connaissent les cours d'assises de métropole.
Parmi les affaires de meurtre, la dernière affaire sera jugée sur 3 jours, du 19 au 21 mars. Un homme est accusé d'avoir tué sa femme à l'aide d'un objet contondant dans l'appartement familial de Lanzvata le 13 juillet 2022. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre sur conjoint. Nouvelle décision de justice dans l'affaire des 2 drapeaux sur les permis de conduire calédoniens. Après un recours de Génération NC, le gouvernement avait été condamné à retirer le double affichage sur les permis de conduire, mais il avait fait appel. La Cour d'appel administrative de Paris a confirmé le jugement prononcé en première instance, ce qui satisfait Génération NC, nous a dit sa secrétaire générale Cynthia Jean.
Bien sûr, nous demandons au président du gouvernement d'appliquer la loi rapidement. D'autant que le gouvernement, mais rappelons-le, paye une amende à l'État de 100 000 francs par jour depuis le 1er janvier, puisque le premier jugement avait déjà notifié au gouvernement l'obligation de modifier les permis de conduire depuis le 1er janvier, ce qui n'est pas le cas. Dorénavant, il conviendra que le gouvernement fasse appliquer la loi qui veut que le drapeau indépendantiste ne peut pas figurer sur un document officiel.
Il appartient désormais au gouvernement de faire appliquer la décision de justice. Le gouvernement appelle les Calédoniens à faire preuve de vigilance face aux pratiques de vente pyramidale. L'organisation de réunions d'information appelée Travel Party ou Club de voyage se multiplie par les réseaux sociaux ou de bouche à oreille, mais elles sont pourtant prohibées par la réglementation. En échange d'adhésion payante, il est promis aux adhérents de développer leur propre activité et espérer obtenir des rendements importants. Le gouvernement rappelle que l'activité d'organisateur de voyage est soumise à une licence et encourage les consommateurs à se renseigner avant tout engagement. Pour toute information, vous pouvez contacter la DAE au 23 22 50 23 22 50. Il est 17h56, on va marquer une pause dans ce journal avant d'évoquer la rentrée scolaire sur le territoire. À tout de suite.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
La semaine dernière, j'ai encore passé 3 jours à courir après mes factures impayées.
Attends, mais avec ce Blue, c'est automatique. Tu cliques sur relancer tes factures et paf, toutes les relances partent direct par mail à tes clients. Et si tu veux que certaines ne soient pas envoyées, tu les enlèves facilement.
Sérieux ?
Et c'est aussi simple pour gérer tes stocks, créer des devis, gérer ta caisse. Je te parle même pas des exports comptables.
Mais non ! Faut appeler qui pour une démo ?
Va sur soblue.nc, S-O-B-L-O-O. Et fais gaffe, tu pourras plus t'en passer.
Soblue.nc ? Ok, j'arrive !
Soblue, la solution locale qui révolutionne votre gestion commerciale.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La SUDEF au soir, Léana Colombo.
La rentrée scolaire est encore très largement évoquée dans notre édition ce soir. Depuis hier, les rentrées se succèdent dans tous les établissements du territoire. Je rappelle que 62 660 élèves font leur rentrée cette année, tout niveau confondu. Et nous ouvrons tout de suite notre page spéciale rentrée pour tout savoir en détail.
Suivez les pages rentrées avec Bureau Vallée.
La rentrée a pris fou, c'est chez Bureau Vallée Magenta. Le sac à dos Eastpak Padded Packer est à 5 900 francs. Et pour une rentrée encore moins chère, Bureau Vallée rachète votre ancien cartable en bon état jusqu'à 1500 francs en bon d'achat. Offre valide jusqu'au 17 février 2025.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Dans le cadre de la rentrée scolaire, depuis hier, les responsables institutionnels se rendent dans différents établissements scolaires pour rencontrer les élèves, mais aussi l'ensemble des équipes éducatives et d'encadrement. Lionel Sabot.
Ce matin, Cyd Pongal, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, était en visite au lycée du Mont d'Or à Saint-Michel. Une visite pour notamment rendre hommage au professionnalisme des équipes de cet établissement scolaire qui ont été, comme dans de nombreux établissements, très sollicités lors des émeutes de l'an dernier. Écoutez Cyd Pongal.
Au-delà du lieu, c'est de rendre hommage au personnel enseignant. J'ai appris ici qu'il y avait eu des organisations tout au long de l'année dernière quand il y a eu les émeutes. Donc une organisation avec des enseignants qui étaient bloqués dans le sud et qui ont par eux-mêmes souhaité maintenir la continuité pédagogique. Et donc ils ont été accompagnés non seulement par leur direction, mais l'ensemble des collectivités derrière. Et c'est l'occasion aussi pour nous de remercier ce personnel qui porte ce sacerdoce de former la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie. Il porte ce lourd fardeau-là de faire à ce que l'école construise la société de demain et que les enfants, les jeunes puissent décider demain de leur avenir non seulement individuel, mais collectif.
Lors de ce déplacement au Mont d'Or, le président du gouvernement a pris le temps pour écouter les personnels de direction, mais aussi bien évidemment les enseignants. L'année scolaire 2024 aura été très compliquée, mais sans occulter ce qui s'est passé ces derniers mois, il faut désormais aller de l'avant. Maxime Jondel est le proviseur du lycée du Mont d'Or.
Alors comment se projette 2025 ? Bah déjà avec à peu près 800 élèves, donc répartis dans les filières habituelles, avec également de nouvelles filières, puisqu'on récupère notamment le bac pro ASSP, accompagnement, soins et services à la personne du lycée P3 Titi. Donc on est content de pouvoir dépanner ces élèves et aussi d'accueillir de nouveaux enseignants. On a aussi un nouveau dispositif Ulysse professionnel, donc pour accueillir des élèves en situation de handicap dans des formations professionnelles. C'est un dispositif qui existait sur le lycée P3 Titi et on a pu aussi, pour récupérer certains de ces jeunes, l'ouvrir au lycée du Mont d'Or. Voilà, après nous préparons une année entre guillemets ordinaire et nous espérons que nous n'aurons pas à déployer un plan B en cours d'année.
Et pour ce déplacement à Saint-Michel, Alcide Ponguet était accompagné d'Isabelle Chamoreau, membre du gouvernement en charge notamment de l'enseignement, et du vice-recteur Didier Vindatiche, présent également bien évidemment sur sa commune, Eddy Le Courrieux, le maire du Mont-d'Or.
Et ce matin toujours, Isabelle Chamoreau est allée à la rencontre des équipes éducatives du groupe scolaire Noël Moucher dans le quartier de Mont-Avel, Lionel.
Un quartier durement frappé par les violences insurrectionnelles débutées au mois de mai dernier. Ce groupe scolaire est situé à l'entrée du quartier de Mont-Avel, juste derrière ce qui est aujourd'hui le site de ruine de la société Le Froid. Après une année scolaire 2024 forcément très compliquée, le groupe scolaire Noël Moucher ayant été le dernier à réouvrir après les émeutes le 19 août, en accueillant les élèves des écoles détruites dans le quartier de Caméré, la rentrée 2025 s'est faite de manière apaisée, comme l'explique Benoît Lamotte, le directeur du groupe scolaire.
Ça s'est bien passé, aussi bien les parents que les enfants. Il y a une très bonne ambiance, les enfants étaient sereins, heureux de revenir à l'école. Même chez les maternelles, on a des enfants qui étaient souriants. Donc voilà, on va dire que sur le quartier de Mont-Ravel, merci aux familles, merci aux équipes aussi, parce que c'est grâce à elles. Franchement, on a eu une rentrée sereine.
Cette année 2025, comme vous la voyez, il ne faut pas oublier 2024, mais en même temps, il faut avancer aussi, c'est important.
Bon, on n'oublie jamais, mais c'est vrai que les parents ont fait un gros travail sur l'école de préservation. Donc on a ce lien avec les familles et on va reconstruire, un vivre ensemble. Ou le poursuivre, mais on va dire le reconstruire avec les familles, avec les enfants et avec les enseignants qui sont dans l'école.
Et lors de cette visite, Isabelle Chamoreau a pris le temps de rencontrer les équipes éducatives afin d'apporter le soutien des institutions aux enseignants, mais aussi, et même si certains sont très petits, aux enfants de cette école située, on le disait, dans un quartier marqué par les émeutes. Écoutez Isabelle Chamoreau.
Je pense que l'année dernière, les gens ont été très courageux, très résilients et sont rapidement venus au travail. On parle souvent de la présence des enfants et finalement peu de celle des adultes, comme si c'était une évidence, mais tout le monde était en poste, que ce soit nos enseignants en primaire, secondaire et nos chefs d'établissement public et privé. Et moi, c'est vrai, je m'inquiète quand même, j'espère que ce sera une inquiétude qui ne sera pas fondée, mais de se dire que les gens, après avoir tenu de cette façon l'année dernière, peut-être cette année peuvent avoir des traumatismes qui reviennent, et donc nous, on sera très attentifs et à leur écoute sur ces sujets, idem pour les enfants. Moi, je dis toujours, ce qui est important dans ces moments de crise, c'est qu'on voit quand même que l'école, il peut y avoir des critiques, mais c'est un phare dans la nuit. C'est-à-dire, c'est là où les enfants reviennent, retrouvent des adultes référents, sont en sécurité. Et puis, il y a des services comme la garderie, la cantine, même s'il y a des difficultés cette année, qui restent parfois aussi l'occasion d'avoir un repas équilibré dans la journée.
Et j'ajoute que le groupe scolaire Noël Moucher de Mont-Ravel compte au total 190 élèves de maternelle et de primaire.
Et puis, en début d'après-midi, c'est au collège Louise Michel de Païtac que s'est rendu le vice-recteur Didier Vindatiche. Une visite sur les thématiques de l'intimidation et du harcèlement.
Oui, le collège Louise Michel de Païtac, qui est en quelque sorte un établissement pionnier sur ces thématiques du harcèlement à l'école. Cet après-midi, le vice-recteur a rencontré 7 élèves de l'établissement, garçons et filles, tous volontaires, pour être des acteurs de prévention et associés au repérage de situations d'intimidation et de harcèlement. Écoutez Didier Vindatiche.
La constitution de ces équipes d'ambassadeurs nous vient de la méthode phare, qui est une méthode désormais nationale de lutte contre le harcèlement et de prévention des formes de harcèlement qui est mis en œuvre en métropole et dont nous nous inspirons totalement ici, de sorte que nous disposons ici en Nouvelle-Calédonie de toutes les pièces du modèle phare. Là, vraiment, je suis content qu'il y ait des ambassadeurs puisque ça correspond à un niveau 2 de développement du modèle phare. Donc c'est un collège qui est pionnier et j'espère qu'en venant montrer des belles choses pionnières, on va entraîner d'autres établissements dans le même mouvement.
Et parmi ces ambassadeurs du collège Louise Michel de Païta, Thibaut, 14 ans, il est en classe de 5e et il se passionne pour son rôle d'ambassadeur.
J'ai choisi ça parce qu'avant j'avais un peu été harcelée et surtout que ça m'avait rendu un peu vide et un peu seule. Je pense que ça a fait partie du tout et qu'au bout d'un moment, il y a eu un déclic, c'est que j'ai vu quelqu'un en 5e se faire harceler. J'avais pas compris que c'était du harcèlement à ce moment-là. Je savais bien que c'était pas bien, mais j'avais pas compris ça comme ça. Et encore après, j'ai vu d'autres situations, mais de loin. Et au moment où il y a eu cette opportunité de devenir ambassadeur, c'est là que ça m'est venu une idée. Du coup, je suis venue, j'ai proposé ma candidature et ça a été pris. Au final, ça a été très bénéfique puisque du coup, j'ai pu approfondir tout ça.
Et les jeunes ambassadeurs ne travaillent pas seuls, bien évidemment. Ils sont accompagnés par des adultes de l'établissement scolaire, des adultes dont la principale mission est de former, si l'on peut dire ainsi, ces jeunes à la problématique du harcèlement. Marion Bénard est infirmière scolaire et référente contre le harcèlement au Collège Louise Michel.
Je les forme à comprendre déjà ce que c'est que le harcèlement, l'identifier, donc repérer les signes, les conséquences qu'un harcèlement peut entraîner chez un enfant. Et puis après, on va travailler sur plus comment on va accueillir l'écoute d'un camarade, comment on va les sensibiliser à qu'est-ce que je suis, quel est mon rôle en tant qu'ambassadeur, quelles sont mes missions. Donc voilà, donc après, ils ont travaillé sur je vais sensibiliser mes camarades au harcèlement en faisant plein de projets. Donc soit des créations d'affiches, des clips vidéo, mais ça peut être des slams. Ils ont fait vraiment beaucoup de choses l'an dernier et donc on va reconduire ça cette année.
Et j'ajoute que ce dispositif fonctionne depuis l'an dernier au Collège Louise Michel de Pailletaille. Il a permis en 2024 de détecter 48 faits d'intimidation ou de harcèlement au sein de l'établissement, qui, rappelons-le, est un établissement pionnier en la matière.
Les élus de la province sud ont quant à eux rencontré l'équipe pédagogique et les élèves de l'école primaire bilingue Michel Amiot à Magenta. Sonia Baquès, présidente de la province sud, était accompagnée de Gilles Brial, deuxième vice-président, et de Marie-Jo Barbier, présidente de la commission provinciale de l'enseignement. Tous les trois ont été accueillis en chanson où les élèves ont chanté l'hymne néo-zélandais. Les élus ont pu échanger avec l'équipe pédagogique avant de visiter l'école Michel Amiot, une école qui n'a pas été choisie au hasard, explique Sonia Baquès, présidente de la province sud.
Alors c'est une école qui a été quand même touchée par ce qui s'est passé puisque le mur d'escalade qui est juste à côté a été brûlé, mais qui est restée ouverte sur la totalité de la période où les écoles étaient ouvertes. Également parce que c'est une école bilingue depuis 2023. On est à la 12e école bilingue qui a été ouverte en province sud. En tout, ce sont 16% des enfants de la province sud qui sont scolarisés en école bilingue, un peu plus de 2400 enfants. Et c'est vrai que ça fait partie des réussites, puisque les enfants, maintenant, on a le recul sur des cohortes entières qui sont arrivées, qui ont dépassé le bac et qui sont des enfants aujourd'hui complètement bilingues.
Sonia Baquès en a profité pour rassurer les Calédoniens. Toutes les rentrées scolaires se sont bien passées pour les enfants. Il n'y a pas eu d'incident marquant. Le pôle excellence Jacques Zimaco du lycée d'Okamo fait lui aussi sa rentrée 2025. Cette classe créée en 2022 aura vu passer de nombreux joueurs de foot qui ont désormais leur place dans les équipes professionnelles. 46 élèves répartis en 5 classes feront partie cette année de ce programme un peu particulier qui a dit cours magistraux et sport. Objectif pour ces sportifs en herbe, avoir un avenir dans le sport à haut niveau mais sans négliger les études. Pour cela, un emploi du temps a spécialement été aménagé, explique Damien Wanapopo, un des trois nouveaux directeurs du lycée d'Okamo.
Il faut savoir lier les études et le sport. Sur le plan scolaire, on a essayé de mettre en place des emplois du temps qui permettent justement à ces jeunes-là de pratiquer le football et en même temps d'assurer les cours au lycée.
C'est combien d'heures qui sont consacrées chaque semaine au sport ?
4-6 heures d'entraînement par semaine. De le lundi, de le mardi ou le mercredi. Ça dépend des classes et ça dépend si ces élèves-là font partie de l'élite ou de l'académie simplement. Je vous donne un exemple. Le mardi, on a aménagé toute la matinée, les 3 premières heures du matin, qu'ils puissent s'entraîner et ensuite suivre les cours, on va dire, selon leur emploi du temps.
Avec les sélections opérées en 2024 par la Fédération calédonienne de football, 22 nouveaux jeunes ont été repérés et intègrent donc l'académie cette année. Une opportunité unique pour eux, explique Leonardo Lopez, éducateur à l'académie d'Okamo.
L'objectif de ces jeunes, c'est de progresser, de profiter de tout ce qui est mis en œuvre dans cette académie grâce au lycée d'Okamo, grâce à la fédération, grâce au gouvernement de Nouvelle-Calédonie, mais qui leur permet de pouvoir progresser et de pouvoir s'épanouir à la fois scolairement et sportivement et pour pouvoir représenter le pays sous le maillot de sélection nationale en sachant que depuis l'ouverture de l'académie, il y a entre 60 et 70% des sélections qui sont composées de jeunes provenant de l'académie. Donc c'est une grosse réussite pour nous et c'est un critère d'évaluation pour nous pour voir si nos jeunes arrivent à accéder à ces sélections nationales et à se qualifier, ou à tenter de se qualifier pour les Coupes du Monde.
Cette rentrée aura également été l'occasion pour le lycée d'officialiser le changement de direction pour cette rentrée 2025. Aurélie Poyot, directrice depuis 5 ans, cède donc sa place à 3 nouveaux directeurs, Rémi Vanal, Damien Wanapopo et François-Paul Maléfant. La rentrée scolaire 2025 subit les conséquences des violences insurrectionnelles. On sait qu'en raison de l'effondrement de ses recettes, la province sud a dû adapter les bourses et les aides scolaires et l'UGPE monte au créneau. Le collectif d'urgence sociale qu'elle a constitué était réuni ce matin devant l'hôtel de province et il a annoncé qu'il allait transmettre à la collectivité une liste des familles dont les enfants sont impactés par ces mesures. Écoutez Jean-France Toutiquion, le secrétaire général de l'UGPE.
C'est des familles, on peut dire, en détresse sociale. Certaines ont quasiment décidé d'abandonner le combat, de garder les enfants chez elles à la maison. D'autres ont décidé de repartir aux îles et au nord. Et d'autres sont vraiment en détresse, essayent de trouver des solutions avec leurs familles proches. Mais c'est compliqué parce que tout le monde est dans des situations sociales difficiles maintenant. Il y a quelques familles qui ont déjà déposé des recours au tribunal administratif. Il y a déjà des dossiers qui sont résolus, heureusement. La province sud étudie quand même les dossiers, mais ça nous semble très très lent. C'est vraiment au compte-gouttes qu'il y a des régularisations.
Le collectif d'urgence sociale qui affirme rester mobilisé sur le dossier. Gilles Brial, le deuxième vice-président de la province sud en charge de l'enseignement, a pris connaissance de la liste déposée par le collectif. De nombreux élèves et leurs familles ne rentrent pas dans le champ de compétences de la province, nous a-t-il expliqué.
Il y a des élèves qui sont dans le secondaire, donc dans des collèges ou des lycées ou dans l'enseignement privé, donc qui ne sont pas gérés par la province sud. Il y a des élèves dans la liste qui sont déjà inscrits et il y a des élèves qui, les parents n'ont pas fait de demande. On ne peut pas gérer l'inscription d'élèves dont les parents ne se sont pas fait connaître. Si vous voulez, sur nos inscriptions, on a 35% des demandes qui ont été réalisées hors délai. Entre la semaine dernière et aujourd'hui, on a plus de 200 parents qui sont venus inscrire leur élève, c'est parce qu'ils avaient oublié d'inscrire leur élève à l'école. Donc ça, c'est une vraie difficulté de gestion de nos effectifs. Et là, il faut savoir que depuis le 1er janvier, on a eu 1000 inscriptions supplémentaires. Donc l'administration, qu'elle soit provinciale ou municipale, a dû gérer ces inscriptions au fur et à mesure.
Gilles Brial s'est par ailleurs engagé à rencontrer les représentants du collectif Urgence Sociale. Un mot de politique avant de refermer notre page rentrée. Le bureau politique du Palika tient à se démarquer des décisions prises par la province sud pour la rentrée 2025. Dans un communiqué, il estime que la province ne doit pas faire subir aux enfants et aux familles des décisions éminemment politiques sous prétexte d'événements politiques dont ils ne sont nullement responsables à l'origine. Le Palika qui demande à l'exécutif de la province sud de revoir ses mesures à l'occasion de la prochaine décision modificative pour permettre la scolarisation des enfants dans les meilleures conditions. Fin de citation.
Mazda vous offre les pages souvenirs de rentrée. Chez Mazda, en ce début d'année, retrouvez toute notre gamme. Citadine, SUV, utilitaire, sportive, à chaque besoin, nous avons ce qu'il vous faut. Passez nous voir et trouvez le véhicule dont vous avez besoin pour vous, votre activité professionnelle ou vos loisirs.
Et ce soir, c'est le proviseur du lycée Jules Garnier, Michel Lehoulier, qui raconte ses souvenirs de rentrée et nous parle de l'évolution de son métier.
Le premier qui me vient à la tête, c'est ma rentrée au collège Mariotti en 6e. Voilà, je venais d'une petite école de Magenta, Porte de Fer, toute petite, et puis j'arrivais dans ce gros établissement avec plein de bâtiments, des salles superposées, et pour moi c'était un peu comme le petit villageois qui rejoint la grande ville.
Quelles sont les principales évolutions par rapport à cette époque, maintenant que vous êtes chef d'établissement ?
Oh là, il faudrait que je me repositionne en tant qu'élève, mais disons que par rapport à cette époque, je pense que la prise en charge des élèves, maintenant que je suis chez l'établissement, je pense qu'elle est encore plus accentuée aujourd'hui. Dans les établissements, on est beaucoup mieux structuré pour l'accompagnement des élèves qu'à l'époque où, en gros, il y avait une infirmière dans tous les établissements, moins de présence d'assistante sociale, et puis il y avait un surveillant général, non pas des CPE, qui gérait en gros la discipline, mais pas grand-chose d'autre. Voilà. Donc aujourd'hui, on a une vraie prise en compte de la difficulté des élèves, qu'elles soient dans leur scolarité ou à l'extérieur, de manière à les accompagner du mieux possible. Il y a eu des réformes successives, donc les programmes ont évolué, les méthodes pédagogiques évoluent. Je crois que la plus grande évolution, c'est quand même l'arrivée du numérique dans l'enseignement. Alors, qu'il y a pas mal de points positifs, hein, mais aussi quelques points négatifs, notamment sur Garnier, où la mise en place du numérique a été compliquée. Donc, on arrive aujourd'hui à avoir un réseau quasi à 100% performant en début d'année 2025, et puis un Wi-Fi qui est en cours de finalisation. Donc, les conditions vont s'améliorer, mais ça a été compliqué sur Garnier.
C'était les pages souvenirs de rentrée offertes par Mazda. Passez-nous voir à notre showroom situé au 174 rue Auguste Bénébigue à Magenta et repartez avec le véhicule qui vous convient. De la citadine à l'utilitaire, Mazda, c'est toute une gamme qui s'adapte à vos besoins. Mazda, drive together.
Et notez ce rendez-vous d'antenne, la formation continue à le vent en poupe. Cette année, l'UNC a développé son offre en la matière. Même les formations initiales peuvent être suivies en formation continue. Quelle offre pour quel diplôme et quels sont les avantages de la formation continue? Nous en parlerons demain matin à 7h30 avec nos deux invités, Laurence Levert, directrice de la formation continue et de l'alternance, et Adrien Blasi, ingénieur de formation.
C'était les pages spéciales rentrée avec Bureau Vallée.
La rentrée sans stress, c'est sur le site bureauvallée.nc. Téléchargez votre liste scolaire directement sur le site bureauvallée.nc et notre intelligence artificielle s'occupe de tout. En trois clics, votre panier est prêt. Livraison ou retrait en magasin, c'est rapide et ultra simple.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 80% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il faut renforcer la sécurité des établissements scolaires pour cette année 2025. Ils sont 20% à penser à l'inverse que ce n'est pas nécessaire. Et notre question du jour, après la publication des chiffres de l'ISEE, pensez-vous que le tourisme va repartir cette année sur le territoire? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. Et avant de refermer ce journal, relancer les fêtes, les marchés, lieux d'échange et de convivialité. C'est la volonté affichée des communes et des comités de foires et notamment ceux qui ont été contraints d'annuler ces événements fédérateurs l'an dernier en raison des émeutes. C'était le thème de l'émission Citoyens ce midi à laquelle ont participé Livaï Roy, président du comité organisateur de la foire de Bouraille, Antoine Romain, directeur de cabinet de la mairie de Païta, Christophe Chiara, président du comité de foire de Coumac, et de Pascal Vittori, le maire de Boulou-Paris. Une émission à retrouver dans son intégralité sur notre site internet rrb.nc. Et on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Alors, cette nuit, la nuit sera globalement étoilée avec parfois quelques plaques nuageuses, notamment sur le nord-ouest, mais également sur l'île des Pins et aux Loyautés en fin de nuit. Sur le nord-est, une averse résiduelle sera possible en soirée. L'alizée d'est-sud-est avoisinera les 15 nœuds. Sur le nord-ouest, il faiblira en cours de nuit entre 5 et 10 nœuds. Les températures minimales seront en hausse, comprises entre 23 et 25 degrés en général, et localement 20 à 22 degrés, ce sera sur l'ouest. Demain matin, le temps sera sec. Sur la pointe sud, l'île des Pins, les Loyautés et Bélep, le ciel sera nuageux à très nuageux. Ailleurs, le soleil l'emportera. Le vent de sud-est soufflera à 15 nœuds, mais se renforcera dès la mi-journée sur le sud-ouest et la pointe nord entre 15 et 20 nœuds. En début de matinée, il sera temporairement faible sur l'ouest, Léana.
Et merci beaucoup, Nicolas, pour la météo et la technique. C'est la fin de cette édition. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h pour le rappel des principaux titres de l'actualité.